Tous les vendredis, le rabbin Jonas sur Koulam Radio.
Une lecture superficielle de l'histoire des enfants d'Israël dans le désert pourrait nous laisser penser que les enfants d'Israël ressemblaient à ces Gaulois immortalisés par Uderzo et Goscinny, volontiers râleurs et irascibles à la moindre occasion envers Moshe, alias Astérix et sa potion magique, la Torah. Mais en se penchant sur notre paracha, Béalotra, c'est une autre image qui apparaîtra à la fois de Moshe et à la fois des enfants d'Israël. En effet, la Sidra nous raconte que peu après avoir quitté le mont Sinaï en direction du pays des Canaan, les enfants d'Israël se sont plaints de l'absence de variété dans les menus du désert, réduits à de la manne, matin, midi et soir, cette nourriture céleste qui tombait du ciel. Tandis que les enfants d'Israël aspiraient à manger de la viande, du poisson et des légumes. Entre parenthèses, le Midrash connu de tous affirme que la manne prenait le goût souhaité par son consommateur. Si c'est ainsi, la manne pouvait offrir la saveur de la viande, du poisson ou des légumes. La réponse est que l'on mange autant avec ses yeux qu'avec son palais, et que l'apparence de cette manne, semblable à des graines de coriandre transparentes, étant toujours la même, quel que soit le goût désiré, cela pouvait frustrer les enfants d'Israël, amateurs de véritables viandes ou poissons. Et voilà que face à ces récriminations des enfants d'Israël sur l'absence de viande, Moshe, l'inoxydable défenseur des enfants d'Israël, même lorsque ceux-ci avaient commis le pire, le veau d'or, va cette fois-ci baisser les bras et renoncer à plaider la cause des enfants d'Israël. Et Moshe va se tourner vers Dieu et lui dire « Je ne peux pas seul supporter le fardeau de ce peuple. Suis-je le père des enfants d'Israël pour devoir assumer leur charge, tel un père vis-à-vis de ses enfants ? Dieu aide-moi. » Et l'Éternel va accéder à la demande de Moshe et nommer un conseil des anciens, ce fameux Sanhédrin composé de 70 sages, pour épauler le prince des enfants d'Israël, en l'occurrence Moshe. Il convient de comprendre ce qui a suscité chez Moshe ce désespoir et ce renoncement à guider seul les enfants d'Israël comme il l'avait fait jusqu'alors. Je me contenterai, chers auditeurs, de vous proposer deux chemins pour justifier cette forme d'abandon de Moshe. La première explication nous est clairement suggérée par Rashi, faisant remarquer que le terme employé par la Torah pour décrire les plaintes des enfants d'Israël est « kemitonenim », littéralement « se lamente », comme un homme qui vient de perdre un être cher, qui est appelé « onen » selon la Torah. Là aussi, les enfants d'Israël ont le sentiment d'avoir perdu le confort de l'Égypte, ses poissons, ses poireaux, ses oignons, qu'ils mangeaient naguère gratuitement au pays des pharaons. Mais Rashi fait remarquer que « mitonen » doit être compris ici comme une fausse excuse, un prétexte pour se plaindre et rejeter l'autorité de Moshe. Et c'est ce que souligne le préfixe « kaf » avant mitononyme, signifiant comme s'il devait se plaindre. Car dans les faits, les enfants d'Israël disposaient d'énormément de troupeaux, au point que lorsqu'ils arriveront à proximité de la terre promise, les tribus de Gad et de Réhouven préféreront s'installer sur la rive est du Jourdain, verdoyante et propice au pâturage de leur bétail. De plus, rajoute Rashi, même la paille indispensable pour fabriquer les briques ne leur était pas fournie, à plus forte raison que des légumes ou de la viande n'étaient pas offerts aux enfants d'Israël. En un mot, comme l'écrit le Sforno, les enfants d'Israël n'avaient aucune raison de se plaindre, ni de se disputer avec Moshe. Seulement, les enfants d'Israël, au fond d'eux-mêmes, n'étaient pas heureux d'avoir choisi la Torah et les mitzvot, et que ce choix leur pesait, les insupportait, et que dès lors, tout leur paraissait noir. Et dans cet état, les enfants d'Israël ont tout rejeté, comme ces personnes énervées, devant lesquelles rien ne trouve plus grâce à leurs yeux, ni leurs femmes, ni leurs belles-mères, ni leurs enfants, ni leurs amis, et que leur critique sur leur entourage n'a qu'une origine, leur mal-être. Et qu'autant Moshe était prêt à apporter des solutions à des problèmes ponctuels, désireux d'encourager les enfants d'Israël sur le chemin de la Torah et des mitzvot. Mais face à des hommes en colère avec eux-mêmes, Moshe n'a d'autre solution que de demander l'aide d'un conseil de sages qui servira d'intermédiaire entre les enfants d'Israël et Moshe, qui incarne plus que tout le motif de leur supposé malheur. Car le véritable problème était, comme le résume l'immense rave et philosophe espagnol Rabbi Yitzhak Arama, les enfants d'Israël préféraient être asservis physiquement et affranchis des mitzvot en Égypte plutôt qu'être libre physiquement, mais soumis aux mitzvot. Rabbi Simcha Cohen de Dvinsk, auteur au XXe siècle du Mesher Chochma, nous mène lui sur une deuxième voie pour expliquer cet épisode de ces lamentations injustifiées. Moshe, après le don de la Torah, était parvenu à se détacher entièrement de la matière. Il était devenu Isha Elohim, un homme divin. Rappelons-nous que Moshe avait décidé de se séparer de son épouse Tzipora, faute d'attrait pour les femmes, seul géant du peuple juif ayant adopté une telle conduite. Et de la même manière, Moshe n'avait plus d'appétit pour la viande, symbole par excellence de la nourriture terrestre, et que seule la manne tombée du ciel convenait à Moshe. Mais les mitonymes n'avaient pas atteint le niveau de Moshe, et que même s'ils avaient des éclairs spirituels, comme vous et moi, les mitonymes aspiraient à goûter aux nourritures terrestres, comme la viande et les légumes. Mais Moshe n'a pas pu comprendre le sens de la réclamation des enfants d'Israël, comme un juif séfarade qui ne peut pas saisir qu'un ashkénaze à la nostalgie du gefilte fish. Ce qui explique le besoin de Moshe de s'adjoindre un conseil de 70 sages, capables de servir de lien entre Moshe, l'homme de Dieu, et les enfants d'Israël, des êtres faits de chair et de sang. Une petite remarque pour conclure. Même si on a l'habitude d'évoquer pour certains avec nostalgie nos ancêtres les Gaulois, nous savons pertinemment qu'il n'y a aucune ressemblance entre le mode de vie et de pensée des Gaulois et les Français actuels. Par contre, les enfants d'Israël, même les mitonymes, l'essentiel de leurs coutumes et de leurs doctrines sont plus que jamais partagés par leurs descendants, les Juifs. Shabbat shalom à vous tous.
Coulam.